Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Jérôme Chapuis.
RTL 7h46. Aujourd'hui, Jérôme Chapuis, vous recevez le vice-président du Front National.
Bonjour Florian Philippot.
Bonjour.
Un commentaire sur ce qu'on entendait à l'instant, plus 0,5%, la croissance au deuxième trimestre, une bonne performance pour l'économie française qui se confirme.
Écoutez, il faut regarder sur la distance. Ça n'est pas la première fois qu'on a un trimestre qui pointe à 0,5. Je me souviens même de 0,6, 0,7. Et on nous avait expliqué que tout était rentré dans l'ordre. Malheureusement, je crois que c'est un peu plus compliqué que cela.
Trop tôt pour parler d'un effet Macron ?
Oui, bien sûr. D'autant que sur le même trimestre, par exemple, souvenons-nous, au mois de mai, le chômage a explosé. Alors, il a un tout petit peu baissé et encore... pas sur les catégories ABC, puisqu'il a continué d'augmenter sur ABC en juin, mais au mois de mai, il avait explosé. Pourtant, c'est bien le même trimestre dont on parle. Donc, il faut regarder les choses de manière, je pense, avec un petit peu plus de distance, et puis se dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a peu de chances qu'une politique qui continue dans la même direction produise autre chose qu'une croissance anémiée et du chômage qui augmente, malheureusement.
Alors, la politique économique du gouvernement, c'est aussi le dénouement hier pour les chantiers de Saint-Nazaire. Ils seront nationalisés provisoirement, faute d'un accord avec les Italiens, c'était la bonne solution?
C'est la solution que nous préconisons, nous, depuis des années. La nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire, c'est une très belle fierté française.
Mais
très
vous
belle,
êtes pour une nationalisation définitive?
Pas forcément. Et ce qu'il faut, c'est trouver une solution qui soit viable et une solution nationale. Voilà. C'est vrai que la solution italienne était une solution hostile depuis le départ. C'est pour ça que nous étions extrêmement réticents. Et d'ailleurs, voir le gouvernement de nouveau se précipiter dès mardi prochain dans les bras de cet Italien dont on sait bien que ses orientations sont plutôt hostiles, n'est pas très rassurant. On a l'impression qu'il y a des pudeurs autour de la nationalisation. On n'ose même pas prononcer le nom, le mot nationalisation au gouvernement.
Préciser quand même.
Ça n'a rien de scandaleux, la nationalisation. Ça veut dire redonner à la nation. C'est un bien de la nation.
Mais dans les faits, ça n'est pas arrivé depuis 1981.
Oui, c'est pas très
grave. Une nationalisation totale.
Oui, c'est une nationalisation parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Et encore une fois, ne nous précipitons pas avec cet Italien dont on sait bien qu'il rapatriera l'activité et l'emploi en Italie au moindre coup dur.
On le sait. Parce que là, les objectifs, il faut le préciser pour nos auditeurs, reste tout de même de trouver un accord avec l'Italien Fincantieri.
Mais moi, je n'y suis pas favorable. Je pense qu'il faut chercher une solution française. On avait parlé à un moment de l'ex-DCNS, c'est-à-dire Naval Group, aujourd'hui. Ce serait, à mon avis, préférable. Et puis, tant qu'on n'a pas, l'État peut rester maître à bord, ça n'est pas un problème.
Quitte à casser un peu de vaisselle avec les Italiens, on l'a vu, ils sont très fâchés.
Oui, mais ils s'en remettront, c'est pas très grave ça. Il faut que la France défende ses intérêts stratégiques, les Italiens n'hésitent pas à le faire. Mais est-ce que cet arbre de la nationalisation ne va pas cacher une forêt de privatisation? Parce que dans le même temps, là on a 80 millions d'euros de nationalisation, c'est pas grand-chose. Dans le même temps, on nous annonce qu'on va peut-être privatiser les aéroports de Roissy et Orly, c'est-à-dire les deux plus gros aéroports français. Attention, là, ce serait une véritable spoliation, sans compter les problèmes de sécurité, puisqu'on sait qu'il vaut mieux que ces établissements soient dans le giron de l'État que dans des girons privés. Je rappelle aux Français qu'ils se sont fait voler leur société d'autoroute il y a quelques années. On les a privatisés et que depuis, ils s'en mordent les doigts. En tout cas, ils regrettent amèrement la décision de ces gouvernements parce qu'ils ont vu les tarifs des péages exploser et que ce bien public qu'ils avaient financé génération après génération, comme les aéroports, ne leur appartient plus.
Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, Florian Philippot, qui d'ailleurs suscite lui aussi des tensions avec nos voisins italiens, les migrants en Méditerranée. Discours d'Emmanuel Macron hier à l'occasion d'une naturalisation à Orléans. Dès cet été, la France entend créer des hotspots, des centres d'examen de demandes d'asile sur le sol libyen. Est-ce que là encore, c'est une bonne solution?
Et nous sommes, nous, favorables à ce que l'asile soit étudié dans les pays d'origine ou à la frontière quand le pays est totalement en crise ou en guerre.
Ce qui parfois est totalement impossible, hein, puisque quand il y a la crise, quand il y a la guerre, c'est impossible.
Alors, c'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord mettre un moratoire sur l'accueil de nouvelles populations qui viennent de Libye. Parce qu'on sait bien que ça n'est pas gérable et que nous sommes face à une situation de plus en plus difficile. Il suffit de voir les flux qui arrivent vers la Méditerranée, vers l'Italie et ensuite vers la France qui sont de plus en plus importants avant toute décision. Oui, installer là-bas des centres de demande d'asile, pourquoi pas, mais est-ce qu'on en a les moyens alors qu'on n'a pas rétabli un État libyen digne de ce nom?
Alors ça a peut-être commencé d'ailleurs cette semaine avec l'accueil de deux dirigeants libyens opposés
qui se sont déjà tapés dessus le lendemain. Donc là, on paye, si vous voulez, d'intervention toujours de Nicolas Sarkozy, soutenu à l'époque par le Parti Socialiste et tous les autres. Il n'y a que nous qui étions opposés à l'époque à cette intervention. En Libye en 2011, qui a détruit l'État libyen, qui a détruit sa stabilité. C'est ça qu'on paye, il faut quand même le dire. Donc aujourd'hui, on va essayer de réparer un peu les choses, mais il aurait mieux fallu ne pas faire cette faute militaire et diplomatique à l'époque. Maintenant, quelle est la situation en termes d'immigration ? Eh bien, nous voyons un flux de migrants inédit qui traverse la Méditerranée, au péril d'ailleurs de leur vie, au risque de leur vie, et qui arrivent en Europe et en France. Et nous ne prenons pas de décision, c'est-à-dire que nous n'avons toujours pas de frontières nationales, nous ne maîtrisons pas notre politique d'immigration. Et vous avez vu, avec l'exemple de la Slovaquie et de la Hongrie, que les pays de l'Union européenne qui essaient de résister en quelque sorte, de ne pas accueillir ces flux de migrants, eh bien, sont condamnés par la justice européenne ou en voie de l'être. Donc ce qui prouve que tant que nous ne sommes pas des pays souverains...
C'est pas toujours sur ces raisons-là. Alors,
La Hongrie et la Slovaquie, c'est exactement sur ça, parce qu'ils refusaient leur quota de migrants. Et la justice européenne, de l'Union européenne, leur a dit « Pas question, vous devez accepter votre quota de migrants. » Alors, moi, je dis aux Français, j'en finis là, tant que vous n'êtes pas un peuple libre... notamment par rapport à l'Union européenne, vous ne pourrez prendre aucune décision dans l'intérêt national, dans aucun domaine, y compris dans le domaine de l'immigration.
Un commentaire rapide, Florian Philippot, sur cette autre phrase d'Emmanuel Macron hier, « Je ne veux plus de migrants dans les rues ni dans les bois d'ici fin 2017 en France ». Est-ce qu'au moins sur l'objectif, vous approuvez ?
Très bien, mais moi je pense qu'il faut arrêter cet accueil de migrants et travailler sur place, travailler au développement de l'Afrique.
Il y a derrière cette phrase l'idée qu'il faut loger tout le monde de manière digne.
D'accord, mais il faut le faire sérieusement. Et pour cela, il faut arrêter de faire en sorte qu'il y ait des centaines de personnes qui arrivent chaque jour. Parce que sinon, la phrase de M. Macron sera une phrase en l'air une fois de plus. Donc travaillons là-bas, retrouvons des frontières nationales et mettons en place les expulsions lorsque les personnes sont là illégalement, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Travaillons notamment sur le développement de l'Afrique. Je connais le plan Borloo d'électrification, je le trouve extrêmement intéressant. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Maintenant, on aurait aimé aussi ce genre de phrase concernant les sans-domicile fixe, les SDF, qui, eux, sont dans les rues depuis des années et des décennies et dont pas grand monde, à part certaines associations qui font un boulot remarquable, ne s'est jamais préoccupé, et certainement pas l'État et le gouvernement. Eux, je n'ai pas entendu de discours de ce type de la part des chefs d'État et de gouvernement quand ils dormaient déjà dans la rue, y compris l'hiver, et que les gouvernements tournaient pudiquement le regard.
Florian Philippot, c'est le bazar à l'Assemblée. Il y a encore eu cette nuit même une séance houleuse dans l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont quitté les débats. Est-ce que c'est du théâtre ou est-ce que c'est justifié ?
Bon, on a l'impression, on nous avait vendu En Marche, La République En Marche, le parti macroniste comme une espèce de révolution, de vent d'air frais, ça allait nous apporter, on allait voir ce qu'on allait voir, la société civile, ça allait être formidable. En réalité, on voit un amateurisme terrible, parfois même une grande médiocrité, il faut le dire. Et puis, sur le fond, même des députés godillots qui n'ont aucune liberté, qui ne peuvent rien dire, rien faire, rien voter avec les autres, etc., ce qui est quand même assez lamentable du point de vue républicain et démocratique, et qui n'apporte rien sur le fond. Enfin, écoutez, leur seul fait de guerre, ils se sont levés en standing ovation le jour où on a voté et où on a décidé la baisse de 5 euros des aides au logement pour les plus pauvres. Alors ça, vous aviez toute La République En Marche debout pour applaudir. Je ne sais même pas s'ils étaient conscients de ce qu'ils applaudissaient. Ou alors peut-être qu'ils applaudissaient de manière mécanique parce qu'on leur demandait d'applaudir, vous savez, comme dans les séries américaines où on sort le panneau applaudissait, alors ils se lèvent, ils applaudissent. Enfin, tout cela est quand même assez lamentable. Il y a beaucoup d'incidents chaque jour. Voilà, donc écoutez, il n'y a pas du tout de révolution macronienne. Il y a une continuité avec des gens qui sont plutôt moins bons qu'avant et qui votent des mesures qui sont terribles. Je parlais des aides au logement. Baisse de 5 euros par mois des aides au logement, des appels, est un scandale. Au même moment, d'ailleurs, on baisse l'ISF pour les plus riches.
Mais on a surtout entendu
ça, c'est la vieille politique, c'est pas de la nouvelle politique.
On a surtout entendu sur ces questions-là les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, à ce propos, vous avez dit le week-end dernier, ça a beaucoup surpris, que vous souhaitiez prendre un café avec Jean-Luc Mélenchon. On a parfois un peu le sentiment que vous êtes un peu perdu.
Ah non, je ne suis pas du tout perdu. Pas qu'avec Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs. Moi, je considère que nous ne sommes pas en guerre civile. Nous sommes...
Enfin, lui, en tout cas, il vous a tout de suite...
Il ne m'a rien dit, lui.
Non, il ne vous a rien dit. Il vous a fait répondre par son ancien porte-parole, Alexis Corbière, qui dit « Les Insoumis... » préfère le café chaud au café facho.
Oui, non, mais moi, je ne m'adressais pas à son garçon de course. Je ne m'adressais pas à M. Corbière. Je m'adressais à M. Mélenchon, qui, lui, n'a pas répondu. D'ailleurs, M. Corbière joue le méchant quand vous le croisez. Ça fait des années que je l'ai croisé dans différents médias. Il est beaucoup plus gentil, beaucoup plus cordial. Donc là, il surjoue un peu. Mais moi, je n'ai pas eu de réponse de Mélenchon. Nous ne sommes pas en guerre civile. On peut avoir un dialogue républicain sans nier nos divergences.
Pardon, mais ça donne le sentiment qu'au moment où vous ne vous sentez pas forcément très, très bien au Front National, vous cherchez une porte de sortie.
Non, mais ne faites pas pas de psychanalyse
c'est pas de la psychanalyse,
à 2 centimes.
C'est de l'analyse.
Non, non, c'est beaucoup plus sérieux que cela. Il y a des grands enjeux en ce moment à l'Assemblée nationale et dans le pays. Il y a la loi travail qui va être une catastrophe.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des points de convergence entre vous et Jean-Luc Mélenchon, écoute ça.
Mais j'ai proposé le même café à M. Wauquiez. Et il y a la baisse des aides au logement. Dans le même temps, on va baisser l'ISF de 3 milliards pour les plus riches, pour les copains du pouvoir. Il y a ce plan de fédéralisation de l'Europe qui avance. Il y a ce drame migratoire qui s'accentue avec l'augmentation de l'accueil des migrants, etc. Les privatisations des aéroports qui arrivent, etc. Donc il y a des choses assez dramatiques qui se passent. Soit on considère qu'on peut parler à personne, parce que c'est une espèce de guerre civile permanente. Soit on peut dialoguer sans oublier nos divergences.
Donc,
on sait très bien.
RTL ce matin, Florian Philippot, et pour terminer, vous renouvelez votre appel à Jean-Luc Mélenchon. Prenons un café, c'est ça ?
Bien sûr qu'on peut prendre un café et discuter, et chacun comprendra bien que ça n'efface pas nos divergences. On connaît très bien nos différences. Il adore l'immigration. Moi, je pense que c'est un problème. Il n'est pas clair sur l'Europe. Moi, je suis très clair, etc., etc. Mais il n'empêche qu'on doit pouvoir discuter, parce que sinon, on n'est pas constructif et on n'avance pas.
Merci Florian Philippot d'avoir été l'invité de RTL ce matin.